Chapitre 4. La Portioncule et les nouveaux disciples. La très ancienne petite chapelle de la Portioncule, telle qu'elle s'est conservée jusqu'à nous, est un bâtiment de forme allongée, avec une voûte gothique, une abside semi-circulaire et deux portes, dont l'une cintrée, mais toute simple, sur le devant, et une autre sur un mur latéral. D'après une tradition mentionnée pour la première fois dans le Paradisus Seraphicus de Salvador Vitali, 1645, cette chapelle a été construite au IVe siècle sous le pontificat du pape Liber par quatre ermites qui étaient revenus de Terre Sainte avec une relique du tombeau de la Vierge que leur avait donné Saint Cyril. Quoi qu'il en soit, le nom de la chapelle, également très ancien, est venu de ce que sur l'autel se voyait une Assomption de la Vierge représentée avec un grand nombre d'anges, d'où la désignation populaire Notre-Dame des Anges. Quant au mot de Portioncule, le petit lot de terre, il avait été employé d'abord par les bénédictins du mont Subasio, à qui cette chapelle avait toujours appartenu depuis 576. En 1075, l'édifice était arrivé à un tel état de ruine que les moines l'avaient abandonné pour rejoindre leurs frères dans l'abbaye du haut de la montagne. Une légende veut que Dame Pica soit allée prier dans la chapelle abandonnée et y ait obtenu l'assurance qu'un fils qu'elle mettrait au monde reconstruirait le sanctuaire à demi détruit. Après la reconstruction, François et ses frères séjournèrent souvent dans le bois qui entourait l'église, et l'on peut imaginer combien grande fut leur joie lorsque, en 1211, l'abbaye du mont Subasio, qui appartenait maintenant au Camaldule, leur accorda à perpétuité la permission de disposer du cher sanctuaire. L'abbaye aurait même volontiers fait don de la chapelle à François, si celui-ci ne s'était pas obstinément refusé à la recevoir en propriété et n'avait même exigé rigoureusement que chaque année, ses frères eussent à envoyer aux moines un panier de poissons en paiement de leur location. Auprès de la chapelle, François et ses frères, chassés de Rivotorto, se construisirent une cabane de branches entrelacées, crépies de boue et recouvertes de feuilles. En guise de lit, on avait étendu sur le sol des sacs de paille. La terre nue remplaçait à la fois la table et les sièges, et une haie formait les murs du couvent. Ainsi se trouva installé le premier luogo, lieu de séjour, franciscain, et qui, suivant la volonté expresse de Saint François, devait servir de modèle à toutes les autres demeures de la communauté. Et lorsque plus tard l'idéal de l'ordre franciscain commença à décliner, l'un des premiers signes de ce déclin fut précisément la substitution au mot « luogo » du mot « convento », expression qui impliquait déjà un certain élément de bien-être et de richesse, et d'où allait être tiré le mot de « conventuel » donné aux représentants de la tendance moins stricte parmi les membres de l'ordre. Mais revenons à l'histoire des premiers franciscains. Ceux-ci, après leur établissement à la Portioncule, virent se joindre à eux tout un cercle de frères nouveaux que l'on pourrait appeler la seconde génération franciscaine. Désormais, à côté de Bernard, d'Égide, d'Ange et de Sylvestre, la tradition et la légende nous offrent une série d'autres noms. Ruffin, Masséo, Junipère, Léon. Et peu s'en faut même que ces disciples de la deuxième heure ne nous apparaissent avec plus d'éclat que leurs prédécesseurs et ne les effacent dans notre souvenir. Il semble en effet que plusieurs des premiers disciples aient eu une tendance marquée à s'isoler, attachant plus de prix à la solitude qu'à la vie en commun. C'est ainsi que Sylvestre aimait à se retirer dans les grottes de Carcheri pour s'y livrer à la méditation, Bernard, quand il priait dans le bois, était si observé en Dieu qu'il n'entendait pas même la voix de frère François qui l'appelait. D'autres fois, ce même Bernard errait tantôt pendant 20 jours, tantôt pendant un mois entier, seul sur la plus haute cime des montagnes, tout occupé à la contemplation des choses d'en haut. Égide, lui, menait une vie vagabonde de voyageur, se rendant tantôt en Terre Sainte, tantôt en Espagne, tantôt à Rome, tantôt à Paris, pour y visiter le sanctuaire de Saint-Nicolas. Et cependant, il serait bien injuste d'imiter la légende qui néglige volontiers les ouvriers de la première heure pour ne se souvenir que de ces nouveaux venus de la seconde génération. Nous serions inexcusables surtout de sacrifier à ces nouveaux venus cet admirable frère Égide que François avait honoré du surnom de son chevalier de la table ronde et en qui s'est toujours incarné vraiment tout l'esprit franciscain primitif dans sa pureté. Jusqu'à sa mort qui eut lieu en 1262, le jour de la fête de Saint-Georges, anniversaire de son entrée dans l'ordre, Égide n'a jamais cessé d'être le bon chevalier de Dieu et le fidèle Saint-Georges de Notre-Dame de pauvreté. Sa vie est notamment une grande preuve de cet amour du travail qui animait Saint François et ses premiers disciples. Sa biographie telle que nous l'a écrite son ami plus jeune, le frère Léon, abonde en traits caractéristiques à ce point de vue. C'est ainsi qu'Égide, étant arrivé à Brindisi au cours de son voyage vers la Terre Sainte et n'ayant pu trouver aucune occasion de s'embarquer aussitôt, fut forcé de passer plusieurs jours dans cette ville. Il obtint par mendicité une vieille conque de grande dimension, s'en alla vers une source, remplit la conque d'eau et se mit à parcourir les rues de la ville en criant à la manière des vendeurs ambulants « Chi vuole del agua ?» Qui veut de l'eau ? En échange de son eau, il consentit à recevoir du pain et d'autres choses qui lui étaient nécessaires, ainsi qu'à son compagnon. Au retour du même pèlerinage, il fut débarqué dans les environs d'Ancône, et là encore il se procura du travail. Il coupa des roseaux, en tressa des paniers et des étuis de bouteilles, et vendit tout cela pour du pain, toujours se refusant à recevoir de l'argent. Il s'employa également à enterrer des morts, et se gagna ainsi non seulement un habit neuf pour son propre usage, mais un autre habit encore pour le frère qui l'accompagnait. Et il disait que cet aumône de l'habit prierait pour lui pendant son sommeil. C'est probablement à Ancône, pendant ce séjour, qu'un prêtre, rencontrant Égide, qui rentrait en ville avec sa marchandise, murmura sur son passage le mot « fainéant », sur quoi le pauvre Égide fut si accablé qu'il ne put retenir ses larmes. Et comme son compagnon lui demandait pourquoi il pleurait, il lui répondit « Je pleure parce que je suis un fainéant, ainsi qu'un prêtre me l'a dit aujourd'hui. » Et c'est à cause de cela que tu crois vraiment être un fainéant ? Demanda l'autre frère. Mais oui, répondit Égide, un prêtre ne peut jamais mentir. Et il fallut alors que son compagnon lui expliquât qu'une différence existait entre le prêtre en tant que tel et le prêtre en tant qu'homme, et que ce dernier pouvait fort bien se tromper, ce qui consola un peu le malheureux frère Égide. À Rome, celui-ci répartit ses journées de telle façon que le matin de très bonne heure, il entendait la messe et qu'ensuite il s'en allait dans un bois assez éloigné de la ville où il recueillait des fagots pour les rapporter à Rome et les vendre en échange de pain. Un jour, une dame, voyant qu'elle avait affaire à un religieux, voulut lui donner pour son bois plus qu'il n'avait demandé. Mais Égide alors ne consentit plus qu'à accepter la moitié de ce prix demandé d'abord, car, expliqua-t-il, je ne veux point tomber dans la cupidité. Au moment de l'accueil des raisins, il aidait à cueillir les grappes, comme aussi à cueillir des olives dans la saison où les olives étaient mûres. Souvent il glanait des épis dans les champs, parmi d'autres pauvres, mais presque toujours il donnait ce qu'il avait ramassé et s'en excusait en disant qu'il n'avait pas de grenier pour y mettre du blé. À la source de Saint-Sicre, en dehors des portes de Rome, il allait chercher de l'eau pour les moines du couvent des Quatre Couronnées, ou bien il travaillait avec le cuisinier du couvent à moudre de la farine et à faire du pain. Toujours d'une façon générale, il acceptait toutes sortes de travaux qu'on lui offrait en échange de sa nourriture. Mais il exigeait d'avance qu'on lui laissât le temps indispensable pour réciter son bréviaire et pour accomplir sa méditation. Au milieu de cette vie active et laborieuse, Égide restait toujours imprégné de la profonde bonté franciscaine. Un jour, sur la route de Saint-Jacques de Compostelle, il découpa le capuchon de son habit pour le donner à un pauvre qui lui demandait l'aumône. Après quoi, il resta 20 jours sans capuchon. En Lombardie, un homme qu'il rencontra lui fit un signe de tête. Égide crut que l'homme voulait lui donner quelque chose et s'approcha. Mais l'étranger, en riant, lui mit dans la main une paire de dés. « Que Dieu te pardonne, mon fils, » lui dit Égide, avant de poursuivre son chemin. Un autre jour, pendant qu'il portait de l'eau pour les moines des Quatre Couronnées, il fut abordé sur la voie appienne par un vagabond qui lui demanda de boire une gorgée de sa cruche. Égide s'y refusa, ce dont l'homme fut très irrité et se plaignit avec maintes injures. Égide ne répondit rien à ces injures, mais dès qu'il fut arrivé au couvent, il prit une autre cruche, courut la remplir à la source et partit en quête de son homme qu'il ne tarda pas à retrouver. Alors il le pria de boire de son seau, en lui disant « Ne sois pas trop fâché contre moi, mais c'est que, vois-tu, il m'a semblé qu'il ne serait point convenable d'apporter à des moines une eau où un autre aurait goûté. Même lorsqu'il était l'hôte d'aussi grand personnage que l'évêque de Tusculum, le cardinal Nicolas, toujours, il s'en allait gagner le pain qu'il mangeait à la table du cardinal. Un jour, une pluie torrentielle sévissait, et le prélat se réjouissait de songer que pour une journée au moins, le frère Égide serait forcé de manger les mets de sa table. Mais voici qu'Égide descend à la cuisine et propose au cuisinier de la lui nettoyer en échange de 2 pains. Et la proposition est acceptée, et le cardinal est déçu dans son espérance. Le lendemain, comme la pluie continuait, Égide gagna ses 2 pains en repassant tous les couteaux de la maison du cardinal. Sous le titre de « L'édit du frère Égide » sont réunis un certain nombre de traits et de sentences qui datent pour la plupart vraisemblablement de la vieillesse du frère. Ainsi, l'on raconte que 2 cardinaux sont venus le voir et en prenant congé de lui, se sont respectueusement recommandés à ses prières. À quoi Égide a répondu « Il est certes bien inutile que je prie pour vous, mes seigneurs, car manifestement vous avez beaucoup plus de foi et d'espérance que moi. Et comment cela ont demandé les 2 cardinaux étonnés et peut-être un peu inquiets, car l'esprit piquant du frère Égide était bien connu. Comment cela? Mais parce que vous, qui possédez en telle abondance les richesses et les honneurs de ce monde, vous avez cependant l'espoir d'être sauvé, tandis que moi, qui mène une vie si pauvre et si dépouillée, je crains malgré tout d'être damné. » Et c'est jusqu'à sa mort que le frère Égide est resté fidèle aux 3 idéaux franciscains, la pauvreté, la chasteté et la joie. On nous a gardé un sonnet qu'il avait composé en l'honneur de la chasteté, ainsi que des fragments d'autres de ses poèmes. Dans le petit jardin du couvent de Monte Ripino, près de Pérouse, il s'amusait à regarder les tourterelles, à écouter leur roucoulement et à leur parler. Et souvent, par les belles matinées d'été, on le voyait aller lentement entre ses parterres, s'occupant à chanter les louanges de Dieu et se donnant l'illusion de s'accompagner sur une viole au moyen de 2 bâtons qu'il frottait l'un contre l'autre. Au contraire de ses disciples de la première heure, qui vivaient volontiers séparés et chacun de son côté, presque toujours les frères de la seconde génération se montrent à nous en compagnie de leur maître. L'un d'eux en particulier, Masséo de Marignano, près d'Assise, a accompagné François dans plusieurs de ses voyages les plus importants. Et tandis que François était un homme sans apparence et de petite taille, peu fait pour être apprécié de ceux qui ne le connaissaient point, Macéo était grand et de belle figure, et doué du don de la parole, et s'entendant à causer avec les gens. Aussi, lorsque les deux amis allaient mendier ensemble, François ne recevait rien que quelques bouchées de pain, et encore très rassis. Et Macéo, lui, obtenait de bons gros morceaux et du pain en suffisance, et souvent des pains entiers. C'était cependant ce grand et beau Macéo, cet élégant parleur qui, dans l'installation des frères au Carcheri, était chargé de garder la porte, de recevoir les aumônes et de s'occuper de la cuisine. En un mot, de porter tout le poids de l'organisation domestique, pendant que les autres frères s'adonnaient librement à la contemplation et à la prière. Un jour, comme il voyageait avec François, et que tous deux étaient arrivés à un croisement de route, d'où l'on pouvait aller aussi bien à Florence qu'à Sienne ou à Arezzo, Macéo demanda « Mon père, quel chemin faut-il que nous prenions ?» François lui répondit « Le chemin que Dieu voudra. » Le frère Macéo demanda « Mais comment pourrons-nous connaître la volonté de Dieu ?» Et François répondit « Je vais te montrer comment nous la connaîtrons. Au nom de la sainte obéissance, je t'ordonne de tourner très vite en cercle, comme font les enfants. Là, juste au milieu du carrefour, et de ne t'arrêter que quand je te le dirai. » Sur quoi, voilà le frère Macéo qui se met à tourner comme une toupie. Et bientôt, il sent que sa tête l'égare. Il est pris d'un vertige et tombe sur la route. Mais comme François ne lui a point dit de s'arrêter, il se relève et se remet à tourner. Enfin, lorsqu'il ne remet plus que très péniblement, François lui dit « Arrête-toi et ne bouge plus. » Ce qu'il fit, et François lui demanda « De quel côté est dirigé ton visage ?» Le frère Macéo répondit « Du côté de Sienne. » Alors François lui dit « En ce cas, la volonté de Dieu est que nous allions aujourd'hui à Sienne. » Par cette humiliation et d'autres épreuves semblables, François exerçait le grand et beau frère Macéo à se sentir petit et misérable. Et vraiment, ce frère finit par atteindre à une humilité si profonde qu'il se figura qu'il était un très grand pécheur et digne de l'enfer, alors que de jour en jour, il allait croissant dans toutes les vertus. Mais sa profonde humilité le remplit avec cela d'une lumière intérieure si intense que toujours son cœur débordait de joie. Souvent, quand il priait, on entendait sortir de lui une sorte de cri de joie, un murmure monotone comme le rouet d'une tourterelle, et c'est avec un visage ravi et un cœur tout riant qu'il vivait dans la contemplation de Dieu, tout en se tenant pour le plus méprisable de tous les hommes. Tel il était dans sa vieillesse, lorsque le jeune frère Jacques de Faléron lui demanda pourquoi il ne modifiait point sa manière de se réjouir et n'essayait pas d'entonner une nouvelle chanson, à quoi Macéo répondit avec un sourire d'allégresse « C'est parce que celui qui ne trouve son bonheur que dans une seule chose ne peut chanter qu'une seule chanson. » Le frère Ruffin d'Assise est celui des nouveaux disciples qui rappelle le plus parmi les anciens Bernard de Quintaval. Né comme lui d'une famille considérable, il appartenait à la race noble des Sifi ou Séfi, et lui aussi, comme Bernard, avait un penchant pour la vie solitaire, penchant si fort que dans une certaine circonstance, Ruffin se vit tout près d'avoir à se séparer de François, dont le christianisme pratique lui paraissait moins séduisant qu'une vie purement ascétique sur le modèle des anciens ermites du désert. Et souvent, il était si plongé dans la contemplation et la prière qu'on avait peine à l'en réveiller et que, lorsqu'enfin il revenait à soi, des mots incohérents lui sortaient de la bouche. Tout à fait en conformité avec l'esprit de saint François était au contraire le tempérament du frère Junipère ou Genièvre, dont François disait en plaisantant « Que n'avons-nous pas tout un bois de genévriers tel que celui-là ? » C'est lui qui, un jour, ayant entendu un frère malade à la Portioncule, murmurait qu'il aurait envie de manger un pied de porc cuit, s'en alla en courant dans le bois, coupa une patte à un cochon, qui s'occupait là à ramasser des glands, et la fit cuire, et la servit à son frère malade. Bientôt arriva le paysan à qui appartenait le troupeau de cochons, et sur la plainte qu'il fit aussitôt, François soupçonna quelques tours du frère Genièvre, et celui-ci ayant été appelé, avoua ouvertement. « Car, dit-il, le goût de ce pied de cochon a fait tant du bien à notre frère que je n'aurais point de remords si même j'avais coupé une patte à 100 cochons. » À grand-peine, François expliqua au frère Genièvre tout ce qu'il y avait d'incorrect dans une telle façon de traiter la propriété d'autrui. Mais enfin, Geneviève s'écria, « Eh bien, puisque je vois que cet homme est irrité contre moi, je vais aller le trouver et je saurai bien l'apaiser. » Il court de toutes ses jambes, retrouve le paysan furieux et lui expose toute l'affaire. Il lui dit comment le frère qui était malade avait très envie d'un ragoût de pied de cochon et ajoute que les cochons ont été créés à l'usage de l'homme et que tout ce qui existe appartient en fait à tous les hommes, puisqu'aucun d'eux n'est capable de créer même le moindre brin d'herbe et que Dieu seul peut tout cela. En conséquence de quoi, il est venu prendre l'un des pieds d'un cochon pour satisfaire l'envie de son frère malade. Tous ces arguments, le frère Genièvre les expose en grand détail et avec un sourire joyeux aux paysans irrités, étant bien sûr que celui-ci ne pourra manquer de comprendre et d'approuver l'amputation pratiquée sur sa bête. Mais apparemment il s'est trompé, car voici que le paysan se met à l'accabler d'injures, l'appelant un voleur et un malfaiteur, comme aussi un idiot et une tête d'âne. « Ce brave homme ne m'a point compris, se dit le frère Genièvre, sur quoi il recommence son récit, son explication avec plus de détails encore que la première fois. Et puis quand il a fini, il se jette au cou du paysan et s'écrie « Voyez-vous, mon bon monsieur, j'ai fait cela pour que mon pauvre frère malade revînt à la santé. Et vous, au moyen de votre bête, vous m'avez aidé à lui rendre la santé. Et par conséquent, vous n'allez plus être triste ni méchant, mais nous allons nous réjouir ensemble et remercier le bon Dieu qui nous donne les fruits de la terre et les bêtes des champs et qui veut que nous soyons tous ses enfants et que nous nous secourions l'un l'autre comme de bons frères et sœurs. Est-ce que je n'ai point raison, dites, mon cher et excellent frère ? » Là-dessus, le frère Genièvre embrassa le paysan et le serra sur son cœur, et le paysan rentra en soi-même, et avec des larmes brûlantes demanda pardon à Dieu et au frère de sa dureté. Après quoi il partit, prit le cochon tout entier, l'abattit et le fit rôtir, et l'apporta lui-même à la portioncule comme cadeau pour les frères. Un autre jour, le frère Genièvre était arrivé dans un petit couvent, d'où les frères partaient pour aller à leur travail. Le frère gardien, avant de quitter la maison avec les autres, dit au frère Genièvre, « Garde bien la maison pendant notre absence, et cuis-nous un peu à manger pour que, quand nous reviendrons. » À quoi le frère Genièvre répondit, « Pouvez-vous fier à moi ?» Et tous les autres s'en allèrent. Resté seul, il se mit à réfléchir sur la tâche dont on l'avait chargé. Et pendant qu'il fendait le bois pour allumer le feu, il se dit, « N'est-ce point déraisonnable, en vérité, qu'un frère soit obligé chaque jour de s'occuper de la cuisine et d'y perdre son temps, sans pouvoir faire même un bout de prière ? Eh bien, je vais faire en sorte de cuire aujourd'hui tant de nourriture que si même les frères étaient beaucoup plus nombreux qu'ils le sont, ce que je ferais eut de quoi les rassasier pour plus de 15 jours. » Puis, ayant pris cette importante résolution, le frère Genièvre s'en va à la ville voisine et y achète aussi bien d'énormes casseroles de terre que de la viande, de la volaille, des œufs et des légumes en grande abondance. Après quoi, il allume un énorme feu, remplit des marmites d'eau et y jette pêle-mêle toutes les provisions qu'il vient de rapporter. Les poumles avec leurs plumes, les légumes non lavés et tout le reste à l'avenant. Lorsque les frères rentrèrent au couvent, Genièvre était dans toute la flamme de son exploit culinaire, sautait d'une marmite à l'autre, au point que c'était un plaisir de le voir, et mêlait son ragoût avec un long bâton, l'intensité extrême du feu l'empêchant d'approcher des marmites. Enfin, il sonne pour le repas. et le visage tout illuminé à la fois de son grand effort et du feu de sa cuisine, il apporte son ragoût aux frères réunis en leur disant « Mangez maintenant, régalez-vous, et puis ensuite nous irons prier. J'ai cuit tant à manger aujourd'hui que cela nous suffira pour plus de 15 jours. » Mais aucun des frères ne put toucher à cette nourriture bizarre que le frère Genève ne cessait point de leur recommander en toute façon. Et lorsqu'enfin le pauvre frère comprit ce qu'il avait fait, il se jeta à genoux devant les frères, se frappa misérablement la poitrine et se lamenta d'avoir gâché tant de bonnes provisions. Convient d'ajouter que les traits de ce genre n'avaient pas toujours pour unique cause la naïveté enfantine du frère Genève. Très souvent, celui-ci voulait, de cette façon burlesque, donner aux autres frères la leçon dont ils avaient besoin quand ils se relâchaient de l'esprit de leur ordre. Et il est bien probable, par exemple, que les frères à qui fut servi cette étrange Macédoine étaient disposés à sacrifier trop de temps pour leur cuisine et à y porter trop d'intérêt. Une autre fois, le même frère Genève, au milieu de la nuit, vint apporter une soupe avec un fort morceau de beurre à son supérieur qui, dans la soirée précédente, lui avait reproché le zèle excessif qu'il mettait à distribuer des aumônes. « Mon père, » dit-il en apparaissant sur le seuil du prieur, avec l'assiette de soupe dans la main, dans une main et une lumière allumée dans l'autre, « tout à l'heure, lorsque tu m'as réprimandé de mes fautes, j'ai cru remarquer que tu t'échauffais bien fort et que ton agitation te donnait la fièvre. Alors je t'ai préparé cette soupe et je te prie de la manger. Rien n'est meilleur pour la gorge et pour la poitrine. » Le supérieur, qui comprend aussitôt l'intention de cette sollicitude intempestive, enjoint sèchement au frère Genève de cesser ses farces. « Fort bien, » répond Genève, « mais la soupe est cuite et doit être mangée. Tu vas donc me tenir la lumière pendant que je mangerai. » Il se trouva que l'autre moine avait l'âme assez franciscaine pour ne répondre à cette impertinence qu'en se mettant à table avec le frère Genève et en partageant la soupe avec lui. Des aventures comme celle-là ne tardèrent point à rendre fameux le frère Genève partout où l'on arrivait en foule pour le voir. Un jour, comme il avait été envoyé à Rome, un grand nombre de personnes élégantes sortirent des murs de la ville pour venir au-devant de lui. Des personnes de même espèce que ces dames parfumées et bruissantes de soie que l'on peut voir aujourd'hui examinant à travers leur face à main les tombeaux des martyrs dans les catacombes. Mais le frère Genève, dès qu'il eut vent de la présence de ses curieux, se prépara à jouer l'un de ses tours ordinaires à une badauderie déguisée en piété. Dans un champ au bord de la route, deux jeunes gens se balançaient. Ils avaient posé une poutre en croix sur une autre, s'étaient assis chacun à l'un des bouts de la poutre, et ainsi s'élevait et descendait alternativement. Le frère Genève demanda à l'un d'eux de lui céder sa place, et lorsque l'élégante société s'approcha, grande fut sa surprise de voir l'honneur de Dieu, l'homme de Dieu, tout absorbé dans l'occupation de se balancer. Les visiteurs ne l'en saluèrent pas moins très respectueusement, puis attendirent qu'il cessât de jouer pour venir à eux. Mais le frère Genève ne parut se souciait ni de leur salut, ni de leur attente. Au contraire, il s'absorba plus que jamais dans la jouissance de sa balançoire. Et lorsque les Romains eurent attendu ainsi un assez long temps, sans que le frère s'interrompît de se balancer, ils s'en allèrent enfin tout furieux, s'accordant à déclarer que ce frère qui passait pour un saint n'était qu'un rustre vulgaire, un lourdeau sans éducation. Et c'est seulement après leur départ que le frère Genève mit pied à terre et seul et tout content se dirigea vers Rome. Avec le frère Léon et le frère Ange Tancredi de Rieti, le frère Genève faisait partie du petit cercle de choix qui, après la mort du maître, devait se réunir autour de Sainte-Claire. En compagnie des deux frères Sully, Genève fut présent au lit de mort de Claire. « Quelle nouvelle avez-vous de Dieu ?» lui demandait joyeusement la sainte, lorsque ce fidèle disciple de saint François se montrait à son chevet. Et lui, il s'asseyait près d'elle, et ouvrant la bouche de la fournaise de son cœur brûlant, il projetait les étincelles enflammées de ses saintes paroles. À la même famille d'âmes franciscaines que le frère Juniper, appartenait aussi ce frère Jean, surnommé le Saint, dont la vocation nous a été racontée de la façon suivante. Pendant que les frères demeuraient à la Portion et n'étaient encore qu'en petit nombre, Saint François avait coutume d'aller dans les villes et les villages des environs d'Assise pour prêcher aux hommes la conversion. Et souvent il emportait avec lui un balai pour nettoyer les églises de la poussière et de l'ordure qui s'y étaient amassées, car rien ne lui faisait plus de peine que de voir qu'une église n'était pas aussi propre qu'il aurait convenu. Et même fois même sa prédication finie, il emmenait les prêtres dans un lieu écarté, afin que personne ne pût entendre leur entretien. Et entre autres choses, il leur recommandait pour le salut des âmes, les exhorçait à tenir bien propre leur église et leurs autels et tout ce qui se rattache à la célébration des mystères sacrés. C'est ainsi qu'un jour, étant arrivé dans un village voisin d'Assise, il commença humblement à balayer et nettoyer l'église. Mais bientôt, le bruit de sa présence se répandit par tout le village, et un paysan qui était en train de labourer son champ vint avec les autres vers François, qu'il trouva plongé dans une occupation sudite. Alors ce paysan, appelé Jean, lui dit « Frère, donne-moi ton balai et laisse-moi t'aider. » Puis, lui ayant pris le balai des mains, il acheva le nettoyage. Et puis tous deux s'assirent à côté l'un de l'autre, et Jean dit au saint « Mon frère, il y a déjà longtemps que le désir m'est venu de servir Dieu, et surtout depuis que j'ai entendu parler de toi et de tes frères. Mais je ne savais pas où te trouver. Maintenant qu'il a plu à Dieu de nous réunir, je suis tout prêt à faire ce que tu jugeras bon de me commander. » Lorsque saint François vit un zèle si grand, il s'en réjouit dans le Seigneur, et d'autant plus qu'il n'avait encore à ce moment que peu de frères, et qu'il devinait bien que cet homme simple et droit aurait de quoi devenir un frère excellent. De sorte qu'il lui dit « Frère, si vraiment ton intention est de vivre comme nous, il faut d'abord que tu te dépouilles de tous les biens que tu peux avoir et que d'après le conseil du Saint-Évangile, tu les donnes aux pauvres. C'est que ce qu'ont fait tous les frères, chacun selon ses moyens. » Ce qu'ayant entendu, le paysan revint aussitôt dans le champ où il avait laissé ses bœufs attelés à sa charrue. Il les détela et ramena l'un d'eux à l'endroit où était le saint. « Mon frère, lui dit-il, depuis maintes années j'ai servi mon père et tous les gens de notre maison. Aussi entends-je m'approprier ce bœuf comme ma part d'héritage, et c'est lui que je vais donner aux pauvres de telle manière qu'il te semblera la meilleure. » Mais lorsque les parents de Jean et ses frères et sœurs cadets apprirent qu'il allait les quitter, ils se mirent à pleurer si longtemps et si fort que saint François en fut ému de pitié, car ils étaient nombreux et incapables de travailler. Le père à force de vieillesse et les enfants parce qu'ils étaient trop jeunes. Si bien qu'il leur dit « Votre fils que voici veut servir Dieu, et c'est ce que vous ne devez point trouver mauvais de sa part, mais dont il convient au contraire que vous vous réjouissiez. Mais afin que vous ne soyez point sans consolation, je veux qu'il vous donne à vous ce bœuf qui lui appartient et qu'il voulait donner à d'autres pauvres comme nous l'enseigne l'Évangile. » Et tous se trouvèrent consolés de ces paroles de saint François et plus encore de la nouvelle que leur bœuf allait leur être rendu. Quant au frère Jean, il revêtit le costume de l'ordre, et si grande était sa simplicité que toujours il se crut tenir de faire tout ce que faisait saint François. Lors donc que saint François priait dans une église ou dans un autre lieu, le frère Jean l'observait attentivement pour faire tout ce qu'il faisait et imiter tous ses gestes. Et lorsque saint François pliait ses genoux ou levait les mains au ciel ou poussait un soupir, aussitôt le frère Jean faisait la même chose. Or, lorsque saint François s'aperçut de ce manège, il en réprimanda gaiement le trop fidèle disciple. Mais celui-ci lui répondit « Mon frère, j'ai promis à Dieu de faire tout ce que tu ferais, Par conséquent, il convient que je t'imite en toutes choses. » Mais l'ami et le confident le plus intime de François parmi ses disciples de la deuxième heure, même peut-être parmi tous ses disciples, était ce frère Léon d'Assise, qui remplissait à la fois auprès de lui les fonctions de son confesseur et de son secrétaire. Le maître, sans doute par allusion, expresse à son prénom, qui signifiait le lion, aimait à l'appeler son frère le petit agneau de Dieu. Les Fioretti nous racontent que, un jour, saint François se trouvait avec le frère Léon dans un endroit où ni l'un ni l'autre n'avaient de bréviaire pour réciter leur office. Et comme cependant ils étaient bien résolus à ne point négliger de rendre grâce à Dieu, François proposa à son compagnon une sorte de prière alternée. « Moi d'abord, je vais dire, ô frère François, tu as fait bien du mal en ce monde. Tu as fait tant de mal et commis tant de péchés que tu mérites d'aller en enfer. Et là, toi là-dessus, tu me répondras, oui, c'est bien vrai que tu mérites d'aller au plus profond de l'enfer. » Et le frère Léon, toujours doux comme une colombe, répondit, « Fort bien, Père, commençons au nom de Dieu. » Alors François se mit à répéter, « Ô frère François, tu as fait tant de mal en ce monde et commis tant de péchés que tu mérites d'aller en enfer. » Mais le frère Léon répondit, « Frère François, Dieu accomplira tant de bien par ton entremise que tu mériteras d'être reçu au paradis. » Sur quoi François s'écria, « Ce n'est pas du tout là ce qu'il faut que tu dises, frère Léon. Mais quand je dirai, frère François, tu mérites d'être damné, il faut que tu me répondes ainsi. Oui, vraiment, tu mérites d'être jeté parmi les damnés. » Et le frère Léon répondit, « Fort bien, mon père. » Alors François se mit à soupirer, à pleurer, à se frapper la poitrine et dit très haut, « Ô Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, j'ai commis tant de péchés que je mérite d'être jeté par toi parmi les damnés. » Mais le frère Léon répondit, « Ô frère François, Dieu accomplira tant de grandes choses par toi que tu deviendras bienheureux entre tous les bienheureux. » Or François fut très surpris de voir que le frère Léon lui répondait tout juste le contraire de ce qui lui était ordonné. Et il le lui reprocha et lui dit, « Pourquoi ne me réponds-tu pas ? Comme je te le dis, au nom de la sainte obéissance, je t'ordonne de me répondre de la façon que je vais t'apprendre maintenant. Donc moi je vais bien dire, misérable François, comment peux-tu croire que Dieu ait pitié de toi, tandis que tu as commis tant de péchés contre le Père de la pitié et le Dieu de la charité, que tu ne mérites aucune compassion? Et moi, frère Léon, petit agneau de Dieu, tu auras bien soin de répondre. C'est vrai que tu ne mérites pas de trouver compassion. Mais comme, après ce soir, François avait répété « Misérable François » et le reste, le frère Léon lui répondit « Frère François, Dieu le Père, dont la compassion est infiniment plus grande que ta faute, aura grandement pitié de toi et en outre te témoignera maintes grâces. » Une telle réponse eut pour effet de troubler un peu François et de l'irriter vivement, si bien qu'il dit au frère Léon, « Que te prend-il de te montrer aussi désobéissant? Chaque fois tu me réponds tout l'opposé de ce que je t'ai ordonné de me dire. » Alors le frère Léon, très humble et respectueux, répondit, « Mon père, Dieu m'est témoin que chaque fois que j'ai voulu répondre comme tu me l'avais ordonné, mais c'est Dieu lui-même qui me force à parler comme il lui plaît, et non pas comme il me plaît à moi. » Étonné de tout cela, François dit encore au frère Léon, « Eh bien, de par l'amour que tu as pour moi, je te prie cette fois de me répondre comme je te l'ai dit. » À quoi le frère Léon répliqua, « En vérité, mon père, chaque fois, je désire répondre comme tu le veux. » Alors François, tout en larmes, s'écria, « Méchant et misérable frère François, comment peux-tu croire que Dieu ait pitié de toi ? » Mais le frère Léon répondit, « Frère François, tu recevras de Dieu une grande faveur et tu seras élevé et fortifié de toute éternité, car celui qui s'abaisse sera élevé. Il m'est impossible de te dire rien d'autre, car c'est Dieu lui-même qui parle par ma bouche. » C'est également en compagnie du frère Léon, toujours d'après les Fioretti, que certains soirs d'hiver, François revenait de Pérouse à la Portioncule, et le froid très vif les faisait beaucoup souffrir l'un et l'autre. Et François, ayant appelé le frère Léon qui marchait en avant, lui dit « Frère Léon, si même nous étions au monde les meilleurs modèles de la sainteté et de l'édification, écoute bien et rappelle-toi ce que je te dis. Ce n'est pas en cela qu'on consisterait la joie parfaite. » Les deux frères firent encore quelques pas. Puis François de nouveau appela son compagnon et lui dit « Frère Léon, si même nous avions le pouvoir de rendre la vue aux aveugles, de rendre la marche aux paralytiques, de délivrer les possédés, de faire entendre les sourds et parler les muets, ou même de ressusciter les morts au bout de 4 jours, remarque bien ce que je te dis. Ce n'est pas en cela que consisterait la joie parfaite. » Une troisième fois, après avoir marché quelque temps, François s'écria « Frère Léon, si nous pouvions parler toutes les langues et connaître toutes les sciences et savoir par cœur toute l'écriture sainte, et que nous fussions en état de découvrir les choses futures et les secrets des cœurs, écoute-moi bien, ce n'est pas en cela que consisterait la joie parfaite. » Une autre fois encore, après un peu de chemin, François appela son compagnon et lui dit « Frère Léon, petit agneau de Dieu, si même nous parlions la langue des anges et si nous connaissions le cours des étoiles et les propriétés des herbes et que nous fussent révélés tous les trésors de la terre et toutes les particularités des oiseaux, des poissons et des bêtes et toutes celles des hommes et toutes celles des arbres et des pierres et des eaux, remarque bien ce que je te dis, frère Léon. Ce n'est pas en cela que consisterait la joie parfaite. » Puis François poursuivit son chemin sans rien dire, et puis il s'écria « Ô frère Léon, si même nous nous entendions à prêcher si éloquemment que tous les incrédules se convertissent à la foi du Christ, remarque bien ce que je te dis, nous n'aurions pas encore la joie parfaite. » Et plusieurs fois ensuite il parla de la même façon, toujours après des intervalles de marche silencieuse, de sorte qu'à la fin, le frère Léon lui dit très étonné « Mais mon père, pour l'amour de Dieu, explique-moi donc où nous pourrions trouver la joie parfaite. » Et François lui répondit « Tout à l'heure, nous allons arriver à la Portioncule, tout percé de pluie et transi de froid, et souillé de la boue de la route, et épuisé de faim. Eh bien, si à notre appel, le frère portier pouvait venir plein de mauvaise humeur et nous demander qui nous sommes, et sur notre réponse que nous sommes deux frères, nous dire « Vous mentez, car vous n'êtes que deux voleurs de grand chemin qui vous en allez attaquant les gens par surprise et volant aux pauvres leurs aumônes. Si ce frère pouvait nous parler ainsi et refuser de nous ouvrir et nous laisser dehors affamés dans la neige et la pluie et le froid, et que là-dessus la nuit arrivait et que nous fussions assez patients pour supporter de telles injures et tant de méchanceté et de mauvais traitements, sans en être fâché et sans même murmurer contre ce frère portier, et que même humblement et charitablement nous puissions penser que ce frère portier nous connaît fort bien pour ce que nous sommes, et que c'est Dieu qui le fait parler ainsi contre nous, ô frère Léon, écoute-moi bien, c'est en cela que consisterait la joie parfaite. Et maintenant, suppose que nous continuions à frapper et que le frère portier furieux sorte de sa loge et nous traite comme deux vauriens importuns et nous chasse avec des coups et nous dise « Sauvez-vous d'ici, coquins et hontés, il n'y a point ici de nourriture ni d'abri pour des gens tels que vous. » Eh bien, frère Léon, si nous supportions encore cela avec patience et gaieté et amour, écoute-moi bien, c'est en cela que consisterait la joie parfaite. Et maintenant, supposons que poussés par la faim et le froid et l'approche de la nuit, nous frappions encore une fois et avec des larmes brûlantes, implorions le frère portier de nous laisser entrer pour l'amour de Dieu et de nous permettre seulement de nous étendre à l'abri, et supposons qu'il se fâche encore plus fort et s'écrie « Voilà vraiment une paire de coquins éhontés, mais ils vont à présent recevoir ce qu'ils méritent. » Et supposons qu'il s'élance sur nous avec un gourdin à nœuds et nous saisissent par le capuchon et nous jettent à terre et nous roulent dans la neige et nous assomment avec son gourdin, eh bien, si nous supportions cela encore patiemment et gaiement, ne songeant aux souffrances du Christ et en nous disant combien c'est chose bonne pour nous de souffrir par amour pour lui, ô frère Léon, écoute-moi bien, c'est en cela que consisterait la joie parfaite. Et je vins maintenant te dire la conclusion de tout cela, frère Léon. Par-dessus toutes les grâces et tous les dons du Saint-Esprit que Dieu accorde à ses amis, il y a plus de joie encore à se vaincre soi-même et à supporter volontiers pour l'amour du Christ toute souffrance, toute injure et toute injustice. Car de tous les autres dons de Dieu, nous n'avons pas le droit de nous vanter, puisqu'ils ne viennent point de nous, mais de Dieu. Aussi l'apôtre dit-il, « Que possèdes-tu que tu n'aies reçu ? Et puisque tu as tout reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu possédais cela de toi-même ? Mais de nos épreuves et de nos souffrances et de nos croix, nous avons le droit de nous glorifier. Et c'est pour cela que l'apôtre dit encore, « Je ne veux me glorifier de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Certes, Renan a eu bien raison de dire que jamais, depuis le temps des apôtres, personne n'avait aussi résolument et puissamment tâché que l'on fait François d'Assise et tout le mouvement issu de lui à transformer en actes les paroles de l'Évangile. Il n'est point surprenant que une nuit, un homme pieux ait eu une vision où il lui semblait que tous les hommes qui vivaient dans le monde se tenaient debout comme des aveugles autour de la portioncule, les mains jointes et le visage levé au ciel, implorant Dieu de leur rendre la vue. Et pendant qu'ils se tenaient là, voici que le ciel s'ouvrit et qu'une grande lumière descendit sur la portioncule et que tous ces hommes qui jusqu'alors étaient aveugles recouvrèrent l'usage de leurs yeux et purent contempler la lumière du salut. »